Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Le français, il est à l'image de Denis Charvet. Il est bougon, il est critique, il est rarement heureux.
Mais par contre, honnêtement, c'est drôle.
Okay.
Jean-Christophe, c'est gratuit.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport avec, oui, Denis Charvet, Philippe Saint-André, que vous retrouverez très vite dans les grandes gueules du sport pour ces tests d'automne. T'as un message à faire passer à Philippe ou pas?
Non, rien du tout.
Okay. Très belle imitation de Philippe.
Ah, c'était lui.
Eh oui, c'était lui. Marie Martineau, Pascal Duprat, Simon Dutin, 11h45. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un débat du jour. Eh bien, vous venez lui dire en face pour notre plus grand plaisir. C'est le 32-16. C'est à partir de 11h45 qu'on a débattu d'Hugo Humbert. Est-ce qu'il a changé de dimension? D'Oscar Jégou, qui va donc rejouer ce soir avec La Rochelle. On a parlé de Luis Enrique et de ses propos sur les chants homophobes. Bref, n'hésitez pas à venir discuter avec les GG. 11h30. Le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Alors c'est quoi le débat caché du jour? Est-ce qu'il y a une petite idée?
Ouais, je sais,
Denis,
moi.
Vas-y.
C'est la mascarade du ballon d'or.
Ah,
et du Real Madrid.
Ok, la mascarade, le caprice du Real Madrid.
Ah, le caprice, plus que ça, oui.
Ok, belle proposition, Marie.
Moi, je pense que peut-être on y va sur toutes les attaques récentes sur Verstappen en F1 et le fait qu'il se fasse un peu démonter par suite à le comportement qu'il a eu sur la piste le week-end dernier.
Ok, très belle proposition aussi, Marie. Simon.
Je sais pas, j'aurais dit comme Denis. Alors peut-être.
Bah, sur le Real Madrid, si
peut-être le Grand Prix de MotoGP de Valence qui a été annulé. On l'a appris hier suite aux inondations terribles qui ont touché la région. Est-ce que le sport doit continuer pour faire penser les gens à autre chose ou au contraire ont-ils eu raison de rester?
The show must go on.
La voilà. Fédération internationale de moto qui voulait continuer. Et finalement les pilotes qui ne voulaient pas continuer et donc ils ont eu gain de cause et qui ne voulaient pas disputer ce Grand Prix qui a été donc repoussé à une date ultérieure. Très bon débat aussi, Pascal.
Non, moi je te verrais bien nous amener sur le débat de la billetterie nominative pour renforcer la sécurité dans les stades.
Ok.
J'aimerais bien faire ce genre
la
de débat.
La billetterie nominative.
Il me semble pas que vous n'y ayez pensé avec Max hier.
Bah, on n'est pas assez intelligent.
Vous aviez
c'est
trop
ça
à faire. Non, vous aviez tellement à faire en vous changeant de conducteur toutes les 5 minutes.
Et surtout, ton débat, il ne sert à rien.
C'est vrai qu'on change beaucoup les débats, mais c'est ça la réactivité, les copains. Évidemment,
mais ça sera pas ça, hein, par contre.
Il faut être sur le coup.
Bah, merci, Denis. Bah, c'est vraiment, tu m'accables ce matin. Denis.
Vous savez quoi? J'ai eu 4 très bonnes propositions. Mais c'est pas ça.
Voilà.
Mais 4 très bonnes propositions, les gars. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Pierre Dac qui a dit un jour: j'ai toujours été surpris qu'un record battu ne se soit jamais plaint.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Léon Marsan va décrocher le titre mondial, champion du monde. Léon Marsan, record du monde.
Peut-être Léon Marsan, le record du monde, il va pas en être loin.
Les derniers mètres,
le chrono.
10 mètres, Léon Marsan, champion olympique. L'histoire s'écrit ici ce soir. Léon Marsan est un monstre, une légende du sport français. 10 mètres à parcourir sur les dernières longueurs. Léon Marsan, champion olympique. Champion olympique.
4
minutes, 2 secondes, 95 centièmes. Il n'y a pas de record du monde, mais il y a un titre olympique.
Il est en avance de 8 dixièmes par rapport au record du monde de Ryan Lochte.
Ça va te dire.
Et le voilà, le premier record du monde.
1:48.88.
Il a pris son chrono. Il l'a jeté contre le mur. Et on en a retrouvé aux 4 points de Singapour.
Le premier homme sous les 1:49.
Oh, le record.
On adore parler de Léon Marchand parce que ça nous permet de réécouter Sophie Camoun et Julien Richard durant les Jeux Olympiques de Paris, un moment forcément inoubliable. Alors 1:48.88. Hier à Singapour, vous l'avez entendu, Léon Marchand a explosé le record du monde de près d'une seconde détenu par l'Américain Ryan Lochte depuis 12 ans. C'est le premier record du monde que bat le phénomène français en petit bassin, lui qui détient celui du 400 mètres 4 nages en grand bassin depuis les mondiaux de 2023. Une performance colossal après un petit mois d'entraînement et après 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Et bien justement, c'est l'objet de notre débat. La musique qui fout les jetons est cette question. Est-ce que les records du monde deviennent plus importants que les titres pour lui désormais, oui ou non? Denis Charvet.
Non.
Simon Dutin.
Oui.
Marie Martineau.
Alors, moi, j'avais pas compris hier que la question c'était pour lui.
Oui.
Je croyais que c'était de manière
générale.
Générale,
oui. Général,
oui. Non, mais pour lui, peut-être bien. Mais alors,
oui, parce
donc, si c'est pour
général,
lui, je switch sur un oui.
Ok, mais tu pourras répondre non si c'est d'une manière générale.
Voilà, ouais. Ça mais donc, le concernant, je pense que oui.
Ça nous donne du pain à moudre, comme disait Laurent Blanc. Très bien. Pascal Duprat.
J'ai beaucoup de mal à me substituer à lui, donc. Je vais dire non.
Ok, avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste natation. C'est Julien Richard, évidemment. Salut Julien.
Salut les grandes gueules de
salut
sport.
Salut Julien.
Alors tu es actuellement à Montpellier pour les championnats de France Petit Bassin et à plus de 11 000 km de Singapour. Le record du monde de Léon Marchand a beaucoup fait parler, Julien.
Oui, à Montpellier, mais avec un œil, tout le monde ici à Singapour. Son co-entraîneur, Nicolas Castel, qui était d'ailleurs à ses côtés sur les deux premières étapes de Coupe du Monde à Shanghai et Incheon en Corée. Eh bien, il est un peu comme tout le monde, finalement.
Je manque un peu de qualificatif parce que Léon est plein de ressources. Mais c'est vrai que après seulement un mois d'entraînement, je pense que le petit bain, ça s'y prêtait bien parce que en termes de rythme, etc., il y a moins besoin peut-être de volume d'entraînement. Je pensais pas forcément qu'il nagerait aussi vite aujourd'hui. Mais voilà, quand il a un objectif en tête et quand il est déterminé et puis dans le jeu, il est capable de faire des choses extraordinaires.
Alors, drôle de concordance des temps, hier soir à Montpellier, au championnat de France, donc, il y avait aussi le 200 mètres 4 nage. C'est l'Amiénois Mewen Tomac, qui avait quand même terminé quatrième au Jeux de Paris sur le 200 mètres d'eau, qui a décroché donc le titre national en nageant 5 secondes moins vite que Léon Marchand.
Bon, en vrai, c'est juste dans la continuité du grand bassin. Hein, là, il a mis en œuvre toutes ses coulées en petit bassin et c'était sûr que, vu ce qu'il faisait en grand bassin, bah oui, qu'il allait exploser tout en petit bassin, c'est ce qu'il fait. Et c'est cool, enfin, c'est cool pour lui. Il montre que c'est lui le patron vraiment en grand et en petit et c'est cool pour la France aussi.
Alors, on peut pas dire que tout le monde, le petit monde de la natation à Montpellier a été très surpris. Le directeur des équipes de France, Denis Auguin, ancien entraîneur d'Alain Bernard.
Bon, en fait, c'est un phénomène assez habituel d'avoir des nageurs qui sont très performants en début de saison en petit bassin. D'abord parce que, évidemment, ils se sont beaucoup entraînés, bien entraînés pendant des années auparavant. Et donc, les qualités physiologiques et techniques ne disparaissent pas complètement. Et dans le cas de Léon, évidemment, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Mais c'est pas une surprise par rapport à ce qu'il a fait auparavant, son niveau en grand bassin et la période. C'est dur parce qu'on a l'impression de banaliser ça et ça l'est pas du tout. Un record du monde, c'est un record du monde et il n'y a pas à le banaliser, loin de là. Mais c'est des choses auxquelles on peut s'attendre, en fait. Voilà.
Voilà, et Nicolas Castel, son entraîneur des Dauphins du Toec, prévient pour la suite.
Avec plus d'entraînement, il pourrait enchaîner davantage de courses. Il peut aussi gagner encore un petit peu en vitesse. Donc j'ai cette sensation qu'il peut nager encore plus vite. Il a déjà dit, ce qui le boostait, ce qui le challengeait, c'est d'aller chercher des records. Et effectivement, les records du monde, et puis pas de n'importe qui, parce que Ryan Lochte, c'est quand même un grand nageur. Je pense que ce genre de challenge, de défi, c'est ça qui le booste, quoi.
Nicolas Castel est comme un peu tout le monde ici à la piscine de Montpellier, aura un œil sur son téléphone dans quelques minutes. À 11h32, il va disputer son avant-dernière course dans ses étapes de Coupe du Monde, le 400 mètres 4 nages. C'est qu'il détient le record du monde en grand bassin. Et puis il nagera aussi la finale du 200 mètres nage libre, puisqu'il s'est rajouté ça. Il a réalisé le troisième temps des séries cette nuit.
Tu restes avec nous, Julien Richard. Tu nous as dit 11h32, le 400 mètres 4 nages en petit bassin à Singapour. Donc nous allons suivre ça dans les grandes gueules du sport, évidemment. Est-ce que le record du monde devient plus important que les titres pour lui? Alors vous ne compreniez pas, en tout cas vous n'êtes pas sûr de ne répondre qu'à Léon Marchand, mais donnez-moi déjà votre élément de réponse et votre sentiment sur cette question, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Marie Martineau.
Oui, alors de manière générale, j'aurais tendance à répondre que non, parce que quand il s'agit d'une compétition, d'un championnat du monde, d'un championnat de Jeux Olympiques, il y a vraiment l'histoire de la confrontation avec les autres au même moment, dans le même bassin, et ça raconte une histoire, et forcément c'est plus marquant, je pense, pour l'opinion publique, parce que tu te souviens de comment la course s'est déroulée, tu vois. Maintenant, concernant Léon Marchand, le fait est qu'il est quand même déjà champion du monde, déjà champion olympique, et que pour lui, je crois qu'aller chercher des records, c'est venir s'inscrire dans une confrontation avec le reste du monde entier qui ait pu nager ces mêmes distances dans des bassins. Donc forcément, lui, il va se nourrir de ça, et il le dit a priori déjà que c'est ça qu'il veut aller chercher dorénavant. Mais tu vois, c'est, il est comme un Armand Duplantis, il est différent. On est sur une telle dimension là pour le coup, qui fait que il ne lui reste pas plus que ça, mais il pourra collectionner les médailles olympiques aussi. Mais voilà, c'est, je pense, la confrontation avec le reste du monde qui devient pour ces mecs-là qui sont tellement hors normes, la seule chose qu'il leur reste à prouver.
C'est justement la question dans un sport de chronomètre. Mais toi, tu parles de Duplantis, j'aurais pu parler du Usain Bolt. À un moment donné, il est tellement au-dessus que c'est que les records qui vous font vibrer. C'est ça l'essence de cette question. Mmh. Denis Charvet, c'est
moi,
pour toi, c'est
bon. Je ne pense pas du tout. Je pense que un grand champion, il vise que les titres, en fait. Parce que la légende, c'est les titres qu'il la fabrique. L'histoire du sport, c'est les titres. C'est être champion olympique, champion du monde. Tu le vois en handball, tous les titres de Karabatic, ce n'est pas des records, c'est des titres. Là oui, effectivement, c'est un record du monde, mais c'est pour moi et mon regard extérieur, c'est anecdotique. Quand je vois Marchand faire 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, c'est extravagant, extraordinaire. Mais un record du monde.
Un record du monde, toi, ça te touche pas.
Mais moi, ça me touche pas. Puis je pense quand même que le sport, la natation, tu vas dans le bassin pour combattre les autres. C'est une compétition avec des copains à côté, quoi. Avec des ennemis, enfin,
des
adversaires à côté de toi que tu vas battre. Mais un record du monde, c'est contre toi. C'est effectivement.
Non, je suis pas d'accord parce que les records du monde, par définition, c'est dans des sports individuels. Bah, de toute façon, si on réfléchit de toute façon à peu près logiquement, quand tu bats le record du monde, a priori, il y a personne, tout le monde est derrière toi.
Tu es champion.
T'es champion.
Oui, mais tu aperçois que t'as le record du monde.
Tu remportes la course et le titre dont il est question. Sauf si tu le fais en série. Mais dans des sports et les records du monde, il y a des données d'aller améliorer en fait ce qui n'a jamais été fait par les gens de tout est congénère, quoi. Jamais aucun être humain n'a été plus rapide que ça, n'a été plus loin. Je veux dire, moi j'adore, c'est la Madeleine de Proust, les championnats d'athlétisme, que ce soit les Jeux, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Il y en a partout. Tu vas au javelot, tu vas aux 400 mètres, tu vas machin. Bon, je regarde quasiment tous les ans toutes les compétitions. Je suis incapable de te citer.
Mais c'est pas la même chose de 100 mètres. C'est pas la même chose.
De citer là, je vais te parler de saut en longueur, tu vois. En revanche, je me souviens du record du monde de Mike Powell en 1991. Je l'oublierai jamais. Je me souviendrai toute ma vie. Ouais. Jusqu'à Atlanta, j'étais incapable de te citer les champions du monde ou les champions olympiques du 200 mètres. Je me souviendrai toute ma vie. Je me souviendrai toute ma vie. Du demi-tour de piste de Michael Johnson avec ses pointes dorées, la loco d'Waco, 19-32, c'était ahurissant, ouais, c'était en pleine nuit.
Usain Bolt,
c'était
à ce moment-là.
T'as bien travaillé, Simon.
Le record, mais j'ai pas travaillé, ce sont mes souvenirs, justement, c'est sincère, Pascal, c'est sincère.
Mais oui, attends.
Les Américains, ils disent the best to ever do.
D'accord,
it.
Alors,
jamais personne
n'a fait. Moi, je pose deux questions à Simon.
En natation, t'as un souvenir en natation de mec qui a gagné le
record du monde en 94. Popov qui bat le record du monde de 100 mètres nage. Ah oui, mais écoutez. Alors, les mecs, je suis désolé si vous n'avez pas de sport. C'est votre
Simon,
problème.
T'es un passionné de sport. Je suis un passionné de sport. Simon. Tu peux vite, sans réfléchir, me donner le record du 4x200 petit bassin qu'il a battu hier.
1:48.88.
Bien, t'as bien travaillé. Et le nombre de médailles d'or qu'il a aux Jeux Olympiques?
D'accord, mais en fait, il va.
Ce qu'on se souviendra, il va les médailles d'or.
Tu vas te souvenir, Pascal, de celle qu'il aura gagnée à Paris, mais est-ce que tu vas te souvenir de celle qu'il va encore gagner
s'il en gagne quatre.
Par exemple,
Michael Phelps, vous vous souvenez de tous ces titres olympiques, les gars.
Non, mais par exemple, à Munich, Mark Spitz, ça dit quelque chose, Mark Spitz?
Il y en a 23,
je pense. Munich. Les 23. Ça te dit quelque chose? Non, parce que t'es trop jeune.
Merci, Marc Spitz, c'est la moustache.
C'était combien donc médailles, le record du monde? Et combien de records du monde il a battu? Par contre, tu te souviens des médailles.
Mais il a raison, non, parce qu'il est dans les années 80.
Oui, mais ça veut rien dire. Dans le temps, tu retiens plus les records, tu retiens les médailles.
Cela dit, qui est allé plus vite que moi? Personne. Et ben voilà, tu es le GOAT.
Simon, en fait, vous m'avez pas laissé répondre.
Je vais élargir un tout petit peu.
Je pleure pour répondre.
Tu es champion du monde pour 2 ans, tu es champion olympique pour 4 ans, tu peux être recordman du monde pendant 10, 15 ans. Il y a des records qui tiennent sur. Même pour les enfin, il y a quelque chose de qui traverse les générations dans le record du monde. Ça reste
passé
un truc,
dans la légende, un mythe.
C'est ça. Donc oui, peut-être que tu tiendras pas exactement le chrono ou l'année ou quoi, mais tu sauras que c'est lui qui a le record du monde. Tu vois, C'est comme ça.
Oui, non, mais en fait, l'argumentaire de Simon, il est très bon. Ça prouve qu'il aime le sport.
Ouais, le mien aussi.
Et ça, il faut le reconnaître. Ce que vous dites, c'est merveilleux. Par contre, ce qu'a dit Denis, ça a vraiment du sens. Voilà. À savoir, et c'est pour ça que je prends les patins de Denis. Parce que, en fait, ce sont les titres dont on se souvient. Mais là, je parle de l'opinion publique, des passionnés de sport que nous sommes. Et puis, pour ceux qui sont vraiment férules d'un sport, alors là, on est sensible au record. Parce que souvent, c'est des sports qu'on a pratiqués et c'est comme un référentiel, si vous voulez. Et pour répondre à la première question, celle qu'on n'a pas compris de la part de Jean-Christophe, j'espère que Marchand, Léo, il n'est pas uniquement aujourd'hui tourné vers les records et qu'il a encore soif de titres. C'est tout ce que
j'espère aussi, bien sûr. Mais après, Simon, moi, je comprends quand tu parles de 100 mètres, par exemple. Parce que la notion d'aller le plus vite, c'est pas pareil dans l'eau que sur Terre, parce qu'on court tous. Mais non, mais c'est la vérité. Tu es l'homme le plus rapide.
Non, mais il y a peut-être des records du monde emblématiques.
Oui, mais c'est important de dire ça.
Peut-être qu'un record du monde en 200 mètres carte nage, quand on n'est pas évidemment assidu à la natation,
ça représente pas grand-chose.
Ça représente pas grand-chose. Alors que la perche,
mais c'est ce que je te dis.
Est-ce que tu veux nous
dire tu te souviendras plus de tous ces titres olympiques ou mondiaux, mais tu sauras que personne n'a jamais franchi une barre aussi haute.
Mais je suis d'accord. Je te rejoins dans le sens où il y a des sports, oui, où tu par exemple, Bimone, moi, j'étais tout petit, j'étais jeune, mais Bimone, je m'en souviens. 8,90, il me semble, c'est ça. Il avait fait un saut dans le temps, il était passé, il avait gagné 40 cm ou 50 cm, je sais plus. Et après, il y a eu Powell qui est arrivé, il y a eu Jonathan Edwards au triple saut. Enfin, voilà.
C'est vrai que. Sotomayor, enfin,
oui, voilà, on a des références. Mais je suis désolé, en natation, j'en ai pas.
Peut-être sur le 50 mètres.
Même pas, je même pas. Je pense que ça vient aussi du sport.
Toi, Denis.
Non, c'est pas par rapport à moi. Ça vient du sport parce que t'as pas cette référence-là, t'as pas cette.
Des records du monde, la ligne rouge qui avance comme ça avec
l'image. Enfin,
on l'a tous, ce record, ce truc-là en tête.
Julien Richard,
c'est un bon débat.
Julien Richard en direct de Montpellier, toi qui connais un peu plus que nous, Léon Marchand, tu l'as côtoyé notamment à Paris cet été. Est-ce que tu as la sensation maintenant qu'il vit pour ça aussi? Et c'est un peu cette mentalité américaine, hein, lui qui est dans les universités, que cette chasse au record est ultra importante.
En fait, il a besoin de se fixer des challenges et des défis. Là, on est par exemple dans une période où il a coupé un mois et demi après les Jeux. Il s'est entraîné qu'un mois avant la reprise de la compétition sur le circuit de Coupe du Monde. Donc, il sait très bien qu'il n'est pas à son meilleur état de forme. Mais pour se motiver, pour se trouver des raisons de nager vite, il est par exemple allé sur le circuit de Coupe du Monde parce qu'il y a plus de concurrence internationale. En plus, c'est sur une tournée asiatique, etc. Et parmi les petits challenges qu'il s'est fixé, c'est que il y a les records du monde. Il sait très bien que vu son niveau de performance au jeu de Paris, et il a plus nagé en petit bassin depuis 2019, il savait très bien qu'il allait s'en approcher, donc ça fait partie des petites choses. Et il a vu notamment sur la première étape à Shanghai qu'il en était pas loin de son record du monde du 200 mètres 4 nage. Il l'a ciblé et je trouve que c'était assez marquant dans sa réaction d'après course au micro du speaker. Il avait un énorme sourire et on a bien compris qu'il avait ciblé ce record du monde, qu'il savait ce qu'il fallait faire pour le battre et qu'il s'est bien amusé à le faire. Donc voilà, ça fait partie des petits challenges de motivation, je pense, qu'il ajoute sur cette partie là de l'année, de cette saison d'hiver qui est un peu particulière. Le petit bassin, on n'en nage pas beaucoup. Après, pour la suite de sa carrière, ça peut faire partie aussi des motivations. On sait très bien qu'il ne battra pas les records du nombre de médailles d'or de Michael Phelps aux Jeux Olympiques. Par exemple, 23, ça me paraît impossible. Mais
alors, aller battre cette
plus
phrase,
de records du monde... Ouais, je sais. aller battre plus de records du monde sur un tas d'épreuves, les empiler, ça peut faire partie des petits challenges pour rester motivé tout au long de sa carrière.
Ok, pour rester motivé, on sait à quel point c'est ingrat ce sport, donc forcément il faut garder cette motivation et c'est pour ça qu'on vous pose cette question sur les records du monde. Il y a Cyril qui veut participer au débat au 32-16. Salut Cyril.
Oui, bonjour tout le monde.
Salut. Alors, Cyril.
Alors tu en penses quoi?
Alors il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que tout à l'heure vous disiez que les records du monde étaient hyper importants, ça je peux le concevoir, il n'y a pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui, si on prend Michael Phelps, il a plus aucun record du monde. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être le plus grand nageur de tous les temps. Comme
il a le record du nombre de médailles décrochées aux Jeux Olympiques. C'est pas un record.
C'est ce que j'allais dire. Mais il a plus aucun record chronométrique. Il lui reste que ça. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. C'est important de battre des records du monde. Mais je pense que Léon Marchand aujourd'hui, il bat des records du monde parce qu'en fait, il a emmagasiné beaucoup de travail qui lui permet de le faire. Mais à mon avis, ce qu'il vise aussi, c'est rentrer dans la légende par rapport à un certain nombre de médailles. Les records, je sais plus qui disait ça, mais les records, c'est fait pour être battu. Donc je pense que quand il aura 20 ans, enfin quand il aura 40 ans, ses records seront battus. Par contre, on se rappellera toujours du nombre de médailles qu'il aura réussi à obtenir aux Jeux Olympiques, comme aujourd'hui, on se rappelle toujours du nombre de médailles qu'a réussi à obtenir Michael Phelps. Ça, c'est, on lui enlèvera jamais. Donc, au pire, faut pas oublier une chose, c'est que les records du monde, bah, ça apporte aussi un petit peu de sous, hein. Et c'est bien normal. Donc, je veux pas dire qu'il court après ça. Mais voilà, c'est comme le disait tout à l'heure Nicolas Castel, le petit bassin, c'est du jeu. Donc là, il s'amuse, il profite, il bat des records du monde. C'est extraordinaire pour la France. Mais Cyril, je pense qu'il a déjà les Jeux Olympiques de 2028 dans la tête.
Cyril, qu'est-ce que tu penses du fait que pendant les Jeux, Armand Duplantis était déjà champion olympique et pour autant le stade français entier est resté, le stade de France en entier est resté, pardon, pour le voir battre le record du monde, alors que l'enjeu principal c'était d'être champion olympique et c'était déjà le fait. Et c'était déjà fait.
Je vais répondre à ça si vous voulez bien.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que si jamais il avait battu le record du monde en série aux Jeux Olympiques et qui ne gagne pas la médaille aux Jeux Olympiques en finale?
On aurait dit, oh, c'est ballot.
Ah, il nous a coupé le sifflet, là. Il nous a coupé le sifflet.
Non, mais t'as raison. Ah, bravo, il est bon, Cyril. Il est très bon, Cyril. Bravo, Cyril. T'es très bon.
Et c'est surtout, t'es Cyril, avec nous, avec tu Denis. Bravo. L'argument massue, selon moi, c'est que le record, bah, ça peut être battu. Alors que les médailles, on va pas te les enlever.
Absolument, ouais.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, un petit jeu sur les records, les copains. Usain Bolt. Sur 100 mètres, c'est quoi le record? Vous vous souvenez?
9,76.
Oh là, on est loin.
9,69.
Oh, on est loin aussi. Ah ouais. Pascal, c'est quoi le record du Usain Bolt?
J'en ai aucune idée. Aucune, non, j'ai pas dit de conneries.
Marie-Martineau.
9,52. 9,58.
Bravo, ah. Simon, très bon journaliste. Le 50 mètres nage libre en natation.
C'est un métier, là.
Allez, comme ça. Pour vous,
moi, je regarde pas mon téléphone.
Pour savoir s'il y a un record.
21,78.
Ah, déjà, on se rapproche.
20,90.
On se rapproche encore. 20,90. C'est quasiment ça, Simon.
21,20.
C'est 20,91. Ouais. Voilà, bravo. Oh,
c'est pas loin, parce que
c'est ça la question.
Mais c'est pour savoir un petit peu si c'est entré dans votre cerveau, ce genre de record. Usain Bolt, je suis un peu déçu, 9,58 quand même.
Ouais.
On pourrait s'en souvenir, les copains. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous. Bravo en tout cas pour ton témoignage, tu as été excellent.
Yes.
Et Julien Richard, on te retrouve dans quelques instants. Oui, tu es en direct de Montpellier, mais tu as un regard sur Singapour avec cette finale du 400 mètres 4 nages et peut-être un nouveau record du monde pour notre ami Léon Marchand. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché et il va vous plaire, il va vous faire réagir, c'est sûr. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec Marie Martineau, Denis Charvet, Pascal Dupraz, Simon Dutin. Sachez que nous guettons en direct de Singapour la performance de Léon Marchand. Le 400 mètres 4 nages va bientôt débuter. Peut-être un nouveau record du monde pour lui. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. C'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG sur un thème du jour. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, vous connaissez le principe. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur l'émotion, sur l'instant. Toujours un débat qui peut hérisser le poil. Le guet-apens du jour, c'est ça. Le haka doit être supprimé, c'est ridicule. C'est l'histoire d'un tweet de quelques mots qui a provoqué un incident diplomatique. Joe Marler, pilier du 15 de la Rose, a envoyé une grenade avant Angleterre-Nouvelle-Zélande cet après-midi. En réponse, une tonne d'insultes et un revers du ministre des Sports néo-zélandais. Deux points, ouvrez les guillemets. Qui est ce Joe Marler? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Dans mon parcours, j'ai rencontré quelques piliers avec un QI élevé, mais très peu. Peut-être qu'il s'agit de ça. On referme les guillemets. Face à la polémique, Joe Marler s'est excusé hier. Je n'avais aucune intention malveillante en demandant que le haka soit supprimé. Je veux juste voir les restrictions levées pour permettre une réponse sans sanction. Et c'est sur cette dernière phrase que nous allons débattre, mes GG, car le pilier anglais soulève un vrai problème. Celui de la difficulté pour l'adversaire de répondre au haka, car très réglementé. Le haka, faut-il revoir les règles? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Non. Marie Martineau.
Non.
Pascal Dupraz.
Tu nous poses une colle, là, vraiment.
Ouais, tu connais les règles déjà.
Ben non, mais est-ce que
la règle, c'est de.
Là, vous comprenez. Est-ce que vous voulez avoir une réponse au hasard?
Est-ce que tu peux répondre?
Est-ce qu'on peut répondre ou pas?
Sanctuarisé.
Non, moi non, parce que ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi.
Bah vas-y, tu commences, Denis. Pourquoi?
Parce que le laka, c'est dans la culture maori, ça vient des maoris en Nouvelle-Zélande. C'est un chant de guerrier, mais il a été le premier laka était de 1905, tout court d'un match international avec les All Blacks. Mais surtout, c'est ancré aujourd'hui dans nos gènes même de rugbyman. Nous, quand moi j'ai eu la chance d'affronter 6 fois les Néo-Zélandais, d'avoir affronté ce haka, et je l'ai toujours respecté. On l'a toujours respecté dans la forme. Après, il s'est trouvé que en 2007, il y a eu souvenez-vous, c'est les Français qui à Cardiff se sont mis en rang bleu, blanc, rouge pour avec Chabal qui regardait quelques mètres. C'était impressionnant. C'était un peu les gladiateurs dans l'arène, quoi. Oui, mais il y avait un côté gladiateur.
Ah oui, mais ils ont été sanctionnés.
Oui, alors ils ont été sanctionnés. Et puis après, il y a eu cette flèche, la flèche du
lever de la victoire.
De la victoire en 2011 à Auckland contre la Nouvelle-Zélande en finale avec l'équipe de France. Moi je trouvais ça sympathique, je trouvais ça plutôt. Mais avec le recul, je me dis il ne faut plus le faire. Il faut respecter le haka, il faut laisser cette culture, cette tradition, et puis pas venir maintenant la perturber, la contrer. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, les Anglais ont chanté pendant le haka à Twickenham. Je trouvais ça indécent et indigne.
Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2019 face aux Blacks, l'Angleterre et Joe Marler, qui jouait ce match, avaient franchi cette ligne, et l'Angleterre avait écopé d'une amende de 2000 livres sterling. Tu parlais de 2011. En 2011, l'équipe de France, pour avoir fait ce V de la victoire en finale de la Coupe du Monde pendant le haka, a été sanctionnée d'une amende de 2 880 €. Évidemment, c'est une broutille, oui. Mais on ne peut pas répondre. C'est symbolique. Est-ce que vous voulez changer ça? Est-ce qu'on peut répondre au haka?
Quand l'équipe adverse avance face au...
Ouais.
Au Black, c'est sanctionné aussi.
Oui, aujourd'hui,
oui,
bien sûr. La ligne médiane.
Oui, la ligne médiane. Mais, oui, mais aujourd'hui, tu peux plus.
Rien ne t'empêche de partir 15 mètres derrière la ligne médiane et d'avancer.
Oui, mais le principe de vous voyez, le principe, c'est d'arriver sur leur terre et d'arriver sur leur terrain. Il y a cette symbolique de franchir
mètres,
la ligne.
Ça sert à rien. C'est à 30 mètres des Blacks, ça sert à rien.
C'est de venir provoquer, c'est ça le but. Mais peut-être que vous voulez garder, justement, sanctuariser ce haka. Il n'y a pas de problème, Marie.
Non, mais disons que, il y a plein de sports comme ça qui sont la résultante de culture, qui sont dans le respect. Enfin, c'est super chouette de te dire que ces choses-là traversent le temps, traversent les époques et peuvent rester. Et c'est chouette de s'incliner devant ça. Ça remet pas en question le fait que tu as envie d'en découdre derrière sur le terrain, mais tu peux respecter ce truc-là qui vient de l'autre côté de la planète, d'une toute petite peuplade, plus ou moins opprimée pendant des centaines d'années, colonisée. Et voilà, eux, ils ont ce truc-là viscéralement ancré. Je sais pas, mais après, moi, je trouve ça toujours très émouvant, en fait, c'est haka, quel que soit l'endroit. Mais je pense qu'il y a des gens que ça ne touche pas et qui voient simplement une espèce de chorégraphie un peu folklorique, exactement, alors que ça reste quelque chose qui est transcendant. Donc laissons-leur, qu'est-ce qu'on va aller inventer en plus pour faire face à ça? Tout ce qui a été fait, et je trouve que c'est chouette que les sanctions aient été minimes, tu vois, parce que c'était toujours très respectueux, ce V ou le fait d'avancer, ou c'est toujours resté soft et dans le respect, en fait, de ce haka. C'est juste histoire de dire nous aussi peut-être qu'on peut s'accrocher à quelque chose, mais en fait on n'a rien d'aussi percutant que les Maoris, quoi. Mais
tu parlais de l'Angleterre à Twickenham, le public avait chanté God Save the Queen pendant le haka. Ça avait été très critiqué.
Je crois que c'est pas le Sweet Chariot qui s'est chanté.
Swing Low, Swing Chariot.
Oui, je crois. Mais tu vois, par exemple, un international ne peut pas en public faire une parodie du haka. C'est interdit. Si tu veux, c'est ça qui c'est tu peux pas faire une parodie, tu peux pas t'amuser avec le haka, c'est très protégé, il faut être allé là-bas pour comprendre la dimension même de cette tradition là.
Mais c'est pour ça que j'avais envie de faire ce débat caché avec toi qui as joué à Nouvelle-Zélande, toi qui as vécu sur le terrain ce haka. Simon Dutin.
On peut pas louer quelle que soit sa nationalité la beauté du haka, le charme de cette tradition, te dire que c'est toujours un des grands moments d'une rencontre, et puis se dire qu'on peut aller leur bousiller leur effet, soit au niveau acoustique, soit au niveau visuel, et prendre la lumière à leur place. Bon, voilà, moi, si encore, nous, depuis des siècles, on avait une tradition, je sais pas, on pourrait danser la bourrée auvergnate, tu vois, avant les rencontres. Si on faisait ça depuis une centaine d'années, bon, ben, je trouverais ça normal qu'on ait le droit de le faire après le haka ou juste avant, en fonction de qui reçoit ou qui se déplace, je sais pas.
Joli mélange, mais, hein, la bourrée auvergnate avec le haka.
Mais j'en sais rien, mais bon, ce que je veux dire, c'est que si t'as une tradition, t'as une tradition, mais on peut pas s'extasier devant la beauté de ce qui fait, tu vois, le charme des rencontres face aux Néo-Zélandais et tout d'un coup se dire qu'on peut aller, voilà, fracasser leur effet et s'empêcher. Après, voilà, le haka, c'est beau dans un stade qui fait silence et qui voilà se
après de voir l'équipe adverse réagir.
Après c'est bien aussi. Après c'est toujours venu des joueurs de l'adversité, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est quand même très impressionnant. Moi je l'ai vécu 6 fois. Il y a quand même quand t'es joueur de rugby que tu les affrontes et que tu as ce haka qui est interprété, t'es quand même t'es dans l'histoire, mais t'es quand même oui, il faut
c'est très violence.
Et c'est pour ça que les Français ont inventé, enfin pas inventé, mais ils ont provoqué ça en 2007-2011. Et après les Anglais ont voulu, il y a toute une certaines équipes qui ont voulu aller parce que c'est aussi se dégager de cette pression là. Il y a quand même c'est pas gratuit si tu veux pas quand t'es joueur. C'est quand même de se dire bon comment on fait pour l'évacuer, pour pas se faire complètement étouffer, inhibé par cet événement et par ce haka qui est quand même très guerrier et très prenant. Hein. C'est-à-dire que c'est puis
leur... Et le match a déjà commencé.
Ça dépend des versions. On rappelle qu'il y a du haka et qu'ils choisissent. Oui, il y a en fonction de.
Mais en général, quand même, l'un et l'autre est impressionnant. Ouais,
c'est quand même poignant. Mais,
j'ai beau avoir défendu cette position, je trouve ça grotesque qu'on sanctionne une équipe qui, voilà, ne fait juste avancer symboliquement.
Je trouve que c'est sévère. Oui, moi, je trouve que c'est très sévère.
Moi, je trouvais que ça participait à la. En fait,
il faut
pas majestueux du haka.
Oui, mais ce qu'ils ont sanctionné, c'est qu'ils trop dérivent, en fait. C'est ça le problème, Pascal. C'est
qu'à partir du moment où tu fais pas de bruit, tu fais silence, moi, je trouve qu'il était préférable de les voir avancer que plutôt voir les Anglais chanter. Ça, c'est irrespectueux. Mais que les Français avancent ou se mettent en flèche, ou en V, je veux dire, c'était pas très offensant. Maintenant que ce soit sanctionné, ça veut pas dire pour autant que c'est extrêmement répréhensible.
Non,
faudrait peut-être poser la question.
Moi, je comprends
aux Néo-Zélandais, ils se sentent offusqués de voir leurs adversaires bouger.
Mais je comprends que la tradition, c'est qu'ils exécutent le haka. C'est pas qu'une équipe soit tu vois, aille dans la provocation. C'est pas de la provocation chez eux. C'est ça que faut comprendre.
Oui,
c'est que les équipes qui font ça en opposition, c'est parce qu'ils.
Oui, mais c'est tellement marqué que eux aussi, ils ont envie de montrer et de marquer leur territoire.
Quand ils font le signe qu'ils égorgent, ils font le signe comme ça qu'ils égorgent.
C'est impressionnant.
Bon, c'est un peu violent quand même, tu vois.
C'est très
violent. Quand t'es en face, t'as l'impression que tu peux l'interpréter.
La Marseillaise, si tu vas par là, Pascal.
Absolument. Alors me parle pas de la Marseillaise. Non, mais non.
Ok, les copains, je te rejoins. Pas culture, en tout cas. Pas inventer des racines qui n'existent pas.
Je reprends la main parce que c'est important. On ne gagne pas toujours 10 000 dollars comme ça en une course. C'est le cas pour Léon Marchand qui vient de remporter le 400 mètres. Quatenage, oui, je réduis tout ça à l'argent, mon cher Julien Richard. Mais pas de record du monde.
Vénal. Non, il n'y a pas de record du monde, il n'y a pas de record d'Europe, il n'y a même pas de record de France. Oh là là, c'est terrible. 3 minutes 58 secondes, 45 centièmes pour Léon Marchand à 15 centièmes de son record de France. Je voulais que je vous dise ce qui s'est passé. Léon Marchand, il a effectivement assuré l'essentiel. Il pose devant l'écran géant là avec le speaker en ce moment de la piscine à Singapour avec derrière écrit 10 000 dollars. C'est-à-dire qu'il a remporté les 3 400 mètres quatenage des 3 étapes de Coupe du Monde, ce qui offre aux nageurs qui réalisent cette performance-là un chèque de 10 000 dollars. Et puis il a fait un grand pas vers la victoire finale du classement général de la Coupe du Monde qui lui rapportera 100 000 dollars. On fera les comptes en fin de semaine sur l'argent, mais pourquoi il n'y a pas de chrono et je vais juste vous donner une petite impression visuelle sur sa course, c'est qu'il a fait un peu le service minimum pour aller gagner ça, parce que derrière, dans une heure, un peu plus d'une heure, il a un 200 mètres nage libre et je pense qu'il a envie de faire un gros 200 mètres nage libre. Il n'a pas eu beaucoup d'occasion d'en faire et ça fait partie des petits buts aussi qui se fixent sur cette étape de Coupe du Monde, essayer des nouvelles épreuves comme le 200 mètres nage libre que l'on pourrait le voir nager un peu plus tard dans sa carrière.
Il touche combien, voilà, Julien, pour chaque course là
10 000 dollars parce qu'il a remporté les 3 épreuves de Coupe du Monde.
Pour te dire, on a fait les comptes.
C'est pour ça qu'il nage moins vite, il est laissé.
pas beaucoup dans
la fin. C'est...
Vas-y Julien, rapidement.
À la fin, alors j'attends juste le départ de la course. À la fin de ces trois étapes, donc ce soir, hein, a priori, il devrait empocher $175,000 sur l'ensemble des prize money de ces trois étapes de Coupe du Monde de la Fédération Internationale, en gros. Voilà ce qui. $100,000 pour le classement général, ça c'est ce qu'il va gagner. Puis après, t'as les primes, $12,000 quand on gagne une étape, $10,000 quand c'est record du monde, $10,000 quand on gagne trois fois la même épreuve sur les trois courses. Il a gagné 100, 200 et 404 nages sur les trois étapes. Donc voilà, vous faites les comptes.
Et ben voilà.
C'est pas mal. Bon, en natation, il faut quand même signaler qu'en dans certains sports, ça peut peut-être faire sourire, mais en natation,
c'est énorme.
C'est mieux que le ski freestyle, hein. C'est quand même impressionnant.
Eh oui, les copains, merci beaucoup, Julien Richard. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des GG. Les GG, vous composez le 32-16. Il y en a beaucoup, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec les GG ce matin, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marie Martineau, Denis Charvet, Simon Dutin. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast où chaque mois nous battons notre record. Donc merci infiniment. Et tout de suite, c'est à vous de jouer. C'est aussi votre émission, les auditeurs. Enfin, l'émission où vous avez un vrai rôle. À tout de suite.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
À tout de suite pour Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Merci d'avoir composé le 32-16, merci de ta fidélité également. Alors mon cher Stéphane, tu veux affronter qui? Je veux un nom, quel GG ce matin?
Je crois que c'est Simon qui a fait une question autour d'Hugo Humbert.
Hugo Humbert, notre débat c'était a-t-il changé de dimension? Et il a fait une démonstration implacable selon lui. Écoutez-le, c'était tout à l'heure. C'est mon Dutin.
Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est la fin de la saison. Bon, Sinner n'est pas là, Djokovic n'est pas là. Souvent, les mecs qui dominent le classement mondial, c'est le Masters 1000 sur lesquels ils se permettent de faire un petit peu l'impasse. Et Eric l'a rappelé, il y a l'effet nostalgie, c'est la dernière à Bercy et c'est un des Masters 1000 où les Français historiquement performent le moins mal, j'allais dire le mieux.
Voilà, vous pouvez retrouver en podcast toute la démonstration. En tout cas, tu voulais réagir au propos de Simon. Stéphane, on t'écoute.
Oui, juste dire que par rapport à Hugo Humbert, il est complètement à sa place, puisqu'il ne faut pas quand même oublier que c'est le numéro 1 français, et que d'ailleurs, il est bien sous-estimé par le monde du tennis et aussi par, j'allais dire, la programmation de Bercy, puisqu'avant de jouer contre Alcaraz, il a jamais été. On l'a fait jouer sur les annexes. Voilà. Donc on a vu les trois Français. On a vu encore le fameux départ, l'éternel départ de Richard Gasquet mardi après-midi. Et par contre, on fait jouer notre numéro 1 sur un annexe comme un petit joueur. Moi, Hugo Humbert, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui apporte beaucoup pour le tennis, qui a pas sa langue dans sa poche parce qu'il dit ce qu'il pense par rapport aux cadences du circuit, il dit ce qu'il pense par rapport à la charge d'Ignacio. C'est quelqu'un qui est très proche des enfants. Vous voyez, quand on emmène des enfants sur les tournois, Hugo Humbert, il a passé du temps avec les enfants, au contraire de beaucoup de joueuses et de joueurs français. Et pourtant, bien en dessous, il a un super jeu, très attaquant, un jeu assez exceptionnel. Donc, il n'est pas, je pense, il est à sa place, tout simplement. Et quand il joue bien, mais quand ça passe. Voilà. Donc, mais je pense par contre qu'il est vraiment sous-estimé en France et surtout par la programmation à Bercy cette année.
Simon, tu peux répondre.
Stéphane, beau plaidoyer pour Hugo Humbert, pour qui je n'ai que de la sympathie, de plus en plus d'admiration, évidemment, suite à son parcours. Mais enfin, tu vois, dans mon club de Pessac, Jean-Jacques, il a gagné l'Interclub, il n'a pas changé de dimension pour autant, quoi. Excuse-moi.
Tu n'es pas en train de comparer Jean-Jacques à Hugo Humbert.
Tu ne réponds pas à la question, en fait, que Jean-Christophe a posée. Est-ce qu'il a changé de dimension? Tu viens de souligner que tout numéro un français qu'il est, on a préféré évidemment les adieux de Richard Gasquet et que ça a plus attiré le public que Hugo Humbert. Tu sais, si nos Français sont classés.
Moi j'étais à Bercy mardi. Bah d'accord, mardi, on a passé avec ma famille, mon fils qui s'entraîne tous les jours, on a passé notre journée sur le court numéro 2 parce qu'on voulait voir jouer des grands joueurs. Et je suis désolé, quand on voit jouer Richie, on l'a vu jouer chaque année on le voit jouer. Je pense que Hugo Humbert méritait de jouer.
Bah, Richie, c'est Richard Gasquet. Pour les intimes. Donc, Hugo Humbert, tu vois, c'est symptomatique de ce qu'on disait. Hugo Humbert aura un surnom auprès du public français, Stéphane,
c'est parce que c'est vous qui ne le médiatisez pas.
D'accord, c'est de notre faute. Mais écoute, on a rappelé que Hugo Humbert Mais non, t'as l'air très attaché à Hugo Humbert, et je n'ai pas dit de mal de Hugo Humbert. Il a été 13e mondial, il est moins bien classé que son meilleur classement. Il n'a pas changé de dimension. Raconte-la toi comme tu veux, Stéphane. Il changera de dimension lorsqu'il dépassera les 8e de finale en Grand Chelem, lorsqu'il entraînera l'équipe de France, je sais pas, en victoire en Coupe Davis. Dernière fois qu'il avait joué Alcaraz en Coupe Davis, il s'est fait laver. Il n'y a pas eu de match. Donc, tu as de la sympathie pour Hugo Humbert, mais il ne déplace pas encore les foules. Il ne fait pas encore les médias.
De donner un coup de pouce pour qu'il déplace justement les foules.
Bon, mais à coup de pas.
Parce que tu vois, vous faites déplacer les foules pour Arthur Fils. Tu fais déplacer les foules
pour Petit Péricard.
Mais tu vois, mais hier, tout le cinéma que Noah vient de voir jouer, non, venez voir Humbert depuis des années. Il joue comme ça. Il a des hauts, il a des bas, comme tout tennisman. Mais voilà, c'est juste, il fait pas le buzz, en fait. Il est pas dans le buzz, il est pas dans la hype. Parce que voilà, il a une personnalité peut-être un peu réservée, un peu timide. Mais si vous alliez peut-être un peu plus le chercher, vous verriez que c'est un sportif qui a aussi des choses à dire et peut-être plus intéressant que les autres.
Stéphane, tu t'exprimes comme si on avait critiqué Hugo Humbert. Encore une fois, loin de moi l'envie ou l'idée de le critiquer. On a juste simplement dit que malgré son magnifique parcours à Bercy, il n'a pas encore changé de dimension. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite à l'avenir.
C'était quand même très intéressant ce que nous disait Stéphane. Et Stéphane, tu remarqueras quand même que pour la première fois dans les grandes gueules du sport, on a fait notre ouverture d'émission sur Hugo Humbert. Oui. Donc c'est dire aussi s'il s'est passé quelque chose cette semaine.
C'est un vrai choix éditorial. Je me suis même fait la remarque hier soir en me disant ok, cool.
C'est normal, t'as il a changé de dimension.
Mais bien sûr, c'était pour ça que je vous ai posé cette question. Merci Stéphane. Didier nous appelle également au 32-16. Bonjour Didier.
Bonjour.
Salut. Bon, on affronte qui ce matin?
Comment?
On affronte qui ce matin?
Donc je suis Didier Giraud, l'éleveur des grandes gueules. Alors je vous écoutais ce matin.
Ah Didier.
Et du coup je vais pas vous faire la surprise. Je voulais prendre Denis en travers.
Vas-y.
Dans les côtes. Sur l'excellent débat de l'excellent Pascal Duprat. Voilà, moi je.
Merci. Sur Charles Olivon. Attends juste Didier, tu connais bien la mécanique de ces émissions, oui. Surtout des grandes gueules. On va réécouter ce que disait Denis Charvet et après pas tu te problème. Le fais avec grand plaisir, Didier. Quel plaisir de t'avoir. On écoute Denis.
Pour moi, c'est les meilleurs qui jouent. Et il y a une logique dans la sélection de Fabien Galthié, c'est qu'il a fait confiance à un garçon qui s'appelle Alexandre Roma, qui est à peu près, qui a le même profil que Charles Olivon, mais qui a fait un début de saison extraordinaire avec le Stade Toulousain, qui a été déjà en équipe de France l'an passé pendant le tournoi, et qui a pris sa place, voilà, qui a pris sa place, qui a gagné sa place, et là, il n'y a pas photo. Donc, je ne dis pas que.
En fait, tu me casses dès la première parole.
Non,
quoi, en fait.
Je casse pas. C'est que moi, c'est le regard que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport.
Il joue aux trois postes, hein, de troisième ligne.
Oui, oui, mais
il peut jouer.
Si tu veux, c'est aujourd'hui, tu as Aldrit, Gross et Alexandre Roma qui vont former la troisième ligne. Il n'y a pas de place pour Charles. Charles, il peut être remplaçant aujourd'hui.
Voilà, il a perdu sa place. Didier Giraud, quand les grandes gueules rencontrent les grandes gueules du sport, il est à toi.
Exactement. Bah, du coup, moi, je peux comprendre l'argumentaire de Denis et voire même la position de Galthié. Sauf que moi, il y a quelque chose qui me gêne. Si on dit aujourd'hui, on se sert du Japon pour faire la politique de l'homme en forme et Rouma a gagné sa place. Ok, Rouma a gagné sa place. Mais j'ai jamais écouté Denis cette semaine et j'ai écouté le Moscato Show toutes les semaines. J'ai jamais écouté Denis hurler parce que il n'y a pas Couillou dans les 42. Jalibert sera sur le banc alors que les deux, ils sont en feu depuis le début de saison. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne qu'on puisse dire, Rouma a gagné sa place, mais qu'on parle pas des autres.
Ah, mais c'est pas le débat. Sinon, je l'aurais fait. Mais je l'ai fait avec Jalibert. Pour moi, Jalibert, c'est une erreur qui joue pas. Là, Didier, t'as loupé quelques Moscato Show.
C'est faux. Non,
je l'ai pas vu, Jalibert.
Didier, Jalibert, c'est honteux, je suis d'accord avec toi.
Non, Jalibert, je le défends.
Mais Couillou,
c'est différent. Parce que Couillou, j'en ai expliqué cette semaine, le Garay, qui a fini le tournoi l'an passé, a fait un excellent tournoi destination, est un excellent joueur. Il a pris un peu la place, donc il lui fait encore confiance. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est défendable. À la limite, c'est défendable. Didier.
Du coup, je me demande, Denis, est-ce qu'il y aurait des maillots rouges et noirs qui seraient plus chers dans ton cœur que d'autres maillots
rouges
et noirs?
Non, évidemment.
Tu l'as compris,
mais encore une fois, Charles reviendra parce que Charles, c'est un grand champion, c'est un joueur d'exception et que là, c'est la loi du sport. Je suis désolé
non, mais...
et que le Japon n'est pas un un test comme ça pour essayer des joueurs. Il faut gagner le Japon, il faut gagner la Nouvelle-Zélande, il faut gagner l'Argentine, okay. et il faut gagner le tournoi.
Et franchement, Didier Giraud devrait un jour faire les grandes gueules du sport parce qu'il est excellent.
Mais
Didier,
il n'y a pas de problème.
Tu veux venir
en plus, il me trouve bon, il peut faire.
Par contre, Didier,
c'est meilleur que Denis dans les grandes gueules. Il m'a tellement fait rêver sur le terrain que je serais en admiration, tu vois.
Didier.
Là, dans mon tracteur, je peux le contredire, mais sinon, je serais en admiration.
Par contre, Didier, tu me fais les côtes, mais j'ai fait le genou cette année, j'ai fait la hanche, j'ai fait le cœur. Ça suffit maintenant.
Merci, Didier. Et franchement, on te lancera une vraie invitation et tu viendras avec nous.
Ah oui, avec grand plaisir.
Lâche un peu les GG. Merci, Didier. Viens dans les GG du sport. Merci,
merci.
Didier.
Merci. Merci.
Et à bientôt sur RMC. 11h57. Merci Marie, Pascal, Denis,
plaisir.
Simon. On se retrouve merci demain pour les grands du sport à partir de 9h. Soyez bien présents au rendez-vous tout de suite. Les paris RMC autour notamment de Paris Saint-Germain. Lens, on vous embrasse et à tout de suite. Ça continue.